Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Bertille Bourdon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Journée spéciale sur France Culture consacrée au mouvement social qui traverse le pays. Une journée intitulée « En raison d'un mouvement social » en référence à cette annonce que vous entendez assez régulièrement depuis 3 semaines maintenant sur les antennes de Radio France. Ce matin, nous allons donc mettre en débat certains enjeux des oppositions sociales et politiques en cours et en particulier ceux qui sont provoqués par l'émergence des géants du numérique auxquels on s'intéresse dans Culture Monde cette semaine. Après avoir étudié hier le bras de fer entre les GAFA et l'Union européenne, intéressons-nous aujourd'hui à leur impact sur le travail. De l'ingénieur d'Apple au livreur Amazon, c'est toute une organisation sociale que vient modifier l'économie numérique. Alors comment les GAFA ont bouleversé le travail? C'est la question qu'on se pose ce matin.
On ne va pas vite chez Amazon, on ne court pas chez Amazon. Les colis vont vite, pas les gens.
07.
Bien.
De multiples améliorations peuvent être apportées, mais Amazon ne souhaite pas les mettre en place ni rendre le travail plus agréable. Amazon cherche à limiter au maximum ses pertes.
Ah, ok.
Est-ce que ça va? J'ai rien entendu. Est-ce que ça va? Ok, super.
Donc la semaine dernière, on a fait 1 344 715 unités. Donc félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir bien fort. Merci.
I would go home at 6 o'clock in the morning.
Je rentrais à 6h du matin après avoir travaillé pendant 11h30 et je devais prendre la dose maximale autorisée d'ibuprofène.
Ils travaillent dur et ont le sentiment d'être exploités. On voit bien que les travailleurs veulent aussi avoir leur part dans les bénéfices produits actuellement en Allemagne. Nous savons que nous ne sommes pas encore les champions du monde des grèves. Dans ce domaine, nous avons du retard à rattraper, surtout par rapport à la France.
Voilà, d'un côté le mythe, de l'autre la réalité. Le mois dernier, l'ancien secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi accusait Amazon d'avoir détruit 7900 emplois en France, invitait les consommateurs à l'approche des fêtes à se tourner vers les alternatives locales et les PME françaises. Cette inquiétude n'est pas nouvelle et dépasse assez largement nos frontières. En effet, un peu partout désormais, le modèle économique promu par les GAFA est remis en cause, avec des citoyens et des responsables politiques qui dénoncent la dégradation des conditions des travailleurs. D'Amazon à Uber, les effets des géants du numérique sur l'emploi apparaissent de plus en plus insupportables, alors même que ces modèles se consolident et que leur place dans l'économie mondiale ne cesse de s'étendre. L'organisation du travail promue par les GAFA constitue-t-elle une avancée ou un retour en arrière? Crée-t-elle autant d'emplois qu'elle n'en détruit? Comment les géants du numérique transforment-ils nos pratiques, nos espaces de travail? Peut-on réglementer ces géants d'Internet où la précarité leur est-elle inhérente? Comment défendre l'intérêt des travailleurs dans ce nouvel environnement et quelles sont les avancées notables en la matière? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Donna Kesselman. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue du travail, vous êtes professeur à l'Université Paris-Est Créteil, spécialiste des droits sociaux, notamment du côté des États-Unis, mais en fait, vous étudiez la chose depuis partout, j'allais dire, dans le monde, parce que, évidemment, ce sont des questions qui nous touchent tous, quels que soient les pays du monde. À nos côtés, Patrick Singolani également, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Est Diderot, un spécialiste de la précarité. Vous avez écrit 2 ouvrages récents, notamment sur ce thème. La précarité, c'était aux Presses universitaires de France en 2017, et puis Révolution précaire, à la découverte, il y a un peu plus, c'était en 2014. Évidemment, on va commencer avec l'actualité, l'un et l'autre. Vous le savez, la France traverse un mouvement social extrêmement profond. Alors, le sujet, là, en ce moment, c'est les retraites, mais c'est en réalité bien plus vaste. Ici, à Radio France, nous sommes également touchés par un mouvement social à propos de suppression de postes. On voit bien que c'est un mouvement qui provoque des perturbations très importantes. Elle provoque des perturbations notamment pour des commerçants qui sont à un moment crucial de l'année parce que c'est un moment où il faut faire son chiffre d'affaires, c'est décisif pour sa santé économique. Et le paradoxe, c'est que en réalité, cette situation, elle profite aux GAFA. Je m'explique, ceux qui ne vont pas dans les petits commerces de proximité, comment font-ils pour faire leurs courses de Noël? Ils vont s'adresser aux commerces en ligne. Et pendant ce temps, Amazon se frotte les mains. C'est un mouvement social, et c'est très paradoxe, qui risque en réalité de consolider des acteurs qui sont à l'origine précisément de la fragilisation des travailleurs. On est dans cette situation-là aujourd'hui. Je voudrais vous entendre sur ce point. Donna Kesselman.
Pour moi, la question du rôle des GAFA pose trois questions. La première question, c'est la cyberespace, donc l'extension de cet espace virtuel par le numérique, l'internet, l'intelligence artificielle, l'impact de disruption que ça a sur le travail. D'un côté, le cyberprolétariat et le néo-taylorisme. L'autre côté polarisé, il y a le travail cognitif. Il y a une deuxième dimension qui est effectivement ces entreprises comme employeurs, parce que ils sont effectivement employeurs eux-mêmes dans cette situation de polarisation. Et troisièmement, il y a l'effet moins connu de ces entreprises qui interviennent dans la régulation du travail. Ils sont des lobbies pour la disruption justement des secteurs professionnels, mais aussi des lobbies pour une espèce de recomposition, entre guillemets, du travail selon les propres règles de la Silicon Valley. Donc c'est ces trois dimensions, je pense, qu'il faut creuser.
Qui par ailleurs se diffusent au-delà des frontières de ces multinationales. En particulier. Patrick Singolani.
Oui, alors, la question du consommateur, à mon avis, est une question...
Peut-être devant le micro, Patrick Singolani, je vous en prie.
La question du consommateur est, à mon avis, une question fondamentale aujourd'hui dans la réflexion sur les GAFA, enfin, sur les GAFA et notamment sur les plateformes de travail. Au sens où on voit très bien que... finalement, dans le processus d'externalisation d'un certain nombre d'enjeux, et notamment dans d'externalisation du travail, toute la question de la note, à travers l'algorithme, toute la question de la note est un élément important. On note, le consommateur note le travailleur, etc. D'ailleurs, le travailleur note aussi le consommateur. Et je pense que dans la réflexion sur ce qui se passe, disons, dans la mise en œuvre de la dynamique du travail en plateforme, la réaction du consommateur, le narcissisme, la question du narcissisme du consommateur est un enjeu important. C'est-à-dire être servi immédiatement, livré en temps et en heure, sans s'interroger sur les conditions de travail de qui produit ce travail. Je pense qu'à un moment historique, en tout cas à l'intérieur du XXe siècle, il y a eu une réflexion sur la relation entre travailleurs-consommateurs, notamment, je pense à tout ce qui a été le coopérativisme, c'est-à-dire que finalement, réfléchir juste... Enfin, qui y avait derrière l'objet? Qui y avait derrière le travail? Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une interrogation.
On commence à le comprendre. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique. Il y a, par exemple, ce sont les routiers là qui récemment ont planté leur piquet de grève devant le site d'Amazon de Sevray pour réclamer une revalorisation de leur propre salaire. Ça veut dire qu'ils ont bien compris que ce site-là et Amazon, de façon générale, cristallise précisément un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, alors même que, en l'occurrence, Amazon n'est pas directement lié à leurs revendications, ils ont compris qu'ils représentaient précisément des transformations qui les fragilisent directement.
Absolument. C'est-à-dire, alors, bon, ça rejoindra aussi les choses dites par Donna, c'est-à-dire notamment la capacité d'attaque et de mise en cause, au fond, d'un certain nombre d'acquis professionnels, d'acquis sociaux, voire d'acquis simplement corporatifs d'un certain nombre d'organisations, que aujourd'hui, le capitalisme de plateforme finalement dissous, attaque à partir justement cette machine qui est l'algorithme et cette machine à fabriquer des indépendants en fait qui est liée à la plateforme.
Donna Kesselman, vous aviez probablement lu le mois dernier le rapport de l'ancien secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi qui avait rendu ce texte, ce rapport intitulé Amazon vers l'infini et Pôle emploi point d'exclamation dans lequel il estimait que la plateforme de e-commerce avait détruit 7 900 emplois à peu près en France. Il mesurait la chose tout simplement en regardant ce qui avait été détruit, en l'occurrence un peu plus de 20 000. On enlève ce qui a été créé, c'était un peu plus de 12 000. Et il disait au total, on a 7 900 emplois qui ont été détruits par Amazon. Alors évidemment, Amazon avait dit mais non, mais avait rejeté la méthodologie, rejeté le calcul en disant mais c'est absolument pas comme ça. Regardez-nous, de toute façon, nous on crée des emplois. Qu'est-ce que vous inspire? Et puis on va essayer de comprendre un petit peu la réelle capacité destructrice de cette entreprise-là et puis des GAFA de façon générale. C'est une question que se posent beaucoup les économistes, les sociologues.
Il y a cette question qui serpente de mer sur la fin du travail, justement. Donc, il y a des estimations qui vont, par exemple, l'OCDE qui dit dans 10 ans, 20% des emplois seront remplacés par la robotisation ou par l'intelligence artificielle. Oxford dit 40%, d'autres 19%. Je pense que la question plus immédiate, c'est poser la question de l'impact de la plateformisation sur le travail. C'est ça la question immédiate. Et je pense que sur ça, il y a deux terrains. Premièrement, c'est la micro-tâche, donc la division de travail en micro-tâches, ce qu'on appelle la tâcherisation, ce que Casilli appelle la tâcherisation, c'est-à-dire les mini-tâches de travail qui est décomposé. Et ça, c'est le rôle justement des réseaux sociaux pour que des mini-travailleurs, des mini-mains fassent des petites tâches. On a vu sur Cash Investigation le fait qu'il peut y avoir des gens partout dans le monde qui vont cliquer pour un travail, pour identifier ceci et cela, éventuellement mettre une caption sur une photo et qui gagne, selon l'OIT, $4 de l'heure. C'est vraiment le cyberprolétariat.
Mais ça, c'est pas propre au GAFA. C'est quelque chose qui est lié au numérique. Mais c'est pas propre au GAFA.
C'est pas propre au
GAFA. Regardez dans la grande distribution, vous avez aussi ce phénomène-là.
Exactement. Mais c'est les GAFA quand même qui organisent ce travail. C'est Microsoft, c'est les plateformes, c'est le numérique.
Dans la grande distribution, c'est le cas aussi. Vous avez ça.
Oui, absolument. Ben justement, c'est Amazon. Donc justement, tout ça, c'est bon. Ça revient.
Non, quand je parle de grande distribution, je parle par exemple de Carrefour, pour pas citer.
Exactement. Mais le système phénomène. Est mis en place par le système des plateformes, qui est justement le cyberespace. Et puis l'autre grande question, c'est effectivement, bien sûr, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, ubérisation, l'économie de partage. Et là, je pense qu'il faut regarder exactement ce que ça veut dire. On peut avoir une définition qui serait la numérisation des relations économiques avec de plus en plus de travail à la commande et organisé par ce qu'on appelle la gouvernance des algorithmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, il y avait une entreprise, il y avait la hiérarchie, et donc le travail était organisé par la subordination des travailleurs, les ordres donnés par les supérieurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une relation triangulaire. Il y a travailleurs, plateformes, clients, des travailleurs indépendants qui travaillent dans des conditions difficiles, mais il n'y a plus de subordination juridiquement qualifiée. Il y a des formes de contrôle très dures, mais qui ne sont pas codifiées par la loi. Et c'est là où fait les formes de travail qui s'échappent justement à la régulation et qui créent effectivement, comme vous dites, des externalisations sur les conditions de travail, sur le chômage, mais justement où les compagnies, les GAFA, ne participent pas sur les frais, sur les coûts publics, parce qu'ils ne paient pas les impôts, et certainement on reviendra sur ça.
On y reviendra, et en particulier sur Uber, mais il y a aussi des cas où la subordination est bel et bien là, et où ça s'accompagne d'une forte précarisation. Avec Amazon, dans les entrepôts, on sait bien le genre d'emplois qui sont créés derrière. C'est des emplois qui sont en réalité extrêmement précaires, y compris d'ailleurs les CDI, parce que quand on regarde les choses en détail, on se rend compte qu'il y a un turnover qui est absolument colossal et qu'en réalité, ce sont des faux CDI. Quand vous restez un an et demi, parce qu'au bout d'un an et demi, vous craquez, vous ne pouvez plus faire face aux cadences, faire face aux conditions extrêmement difficiles qu'on vous impose, est-ce encore un CDI? Patrick Singolani, essayons de comprendre pourquoi est-ce que finalement des agences, des acteurs comme Amazon sont en capacité d'implanter sur le territoire des entrepôts. Il y en a eu un qui a été très récemment, par exemple, implanté du côté de Brétigny-sur-Orge, qui est un entrepôt ultra-moderne. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, y est allé pour inaugurer tout ça, preuve que peut-être que nos responsables politiques n'ont pas encore pris la mesure de l'impact de tout cela. Mais qu'est-ce qui fait... D'abord, quel est le profil du territoire qui finalement est un bon territoire pour accueillir ce genre d'acteurs? Et comment se fait-il que les responsables locaux les accueillent alors même qu'on sait pertinemment que ça produit de la précarisation?
Alors, bon, je vais répondre d'abord à peut-être à la première question et puis à la deuxième. Bon, Monsieur Majoubi insiste sur la question de l'emploi, mais il faut quand même parler aussi du travail. C'est évident que il y a un problème concernant une concurrence, disons, de la digitalisation sur l'enjeu de l'emploi. Mais il faut aussi peut-être regarder tout simplement, et Donald l'évoquait, la question du travail lui-même. C'est-à-dire, ne serait-ce même que le fait que il y avait des gens qui vendaient des livres, c'est-à-dire qui étaient en front office, qui dialoguaient avec d'autres, qui sont et l'arrivée des entrepôts et l'arrivée d'Amazon, c'est le passage au back office, c'est-à-dire des gens qui sont complètement conduits par des GPS et qui marchent et mettent dans des chariots des livres. C'est un
les travailleurs sont des assistants,
des robots. Assistants de la machine. Mmh. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et par ailleurs, il faut rappeler quand même que probablement Amazon est une des formes de capitalisme les plus âpres aujourd'hui, compte tenu à la fois de ses conditions de travail guidées par GPS, compte tenu du fait également que il y a une sorte de vigilance sur le temps employé par les travailleurs, notamment entre le moment où ils arrivent dans l'entrepôt et le moment où ils partent. On compte le temps pour se déplacer pratiquement comme un temps de loisir et non pas comme un temps de travail. Donc il y a des mécanismes extrêmement d'un capitalisme, comment dire, âpre dans l'extraction de l'énergie de ces travailleurs. Donc il y a cette dimension qui est vraiment à prendre en compte, et d'autres éléments seraient également à prendre en compte d'ailleurs plus
largement. Et pourquoi on l'accepte? Laisse s'installer un entrepôt
Je vais essayer de répondre. Je pense d'abord, si on regarde ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne ou ce qui se passe en France, en gros, ce sont des territoires plus ou moins déshérités qui ont été confrontés à un effondrement en termes d'emploi, etc., etc. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les régions ou si c'est les communes, mais en tout cas, on leur fait une sorte de pont d'or pour pouvoir lui permettre de s'installer. Il y a ce jeu, effectivement, d'Amazon, parce que finalement, c'est un GAFA qui reste paradoxe. Enfin, on pourrait dire que c'est un des rares GAFA qui finalement est sur la forme traditionnelle du conglomérat, c'est-à-dire que il a plusieurs activités, etc. Et il a des activités physiques objectives. Et ces activités physiques objectives, elles se passent effectivement dans les entrepôts. Et donc, effectivement, ce qui se négocie, c'est la plupart du temps la possibilité d'embaucher des gens, etc. Mais des chômeurs notamment, des chômeurs qui viennent d'un peu partout, puisque finalement, enfin, de plusieurs horizons professionnels, puisque finalement, ce que propose Amazon, c'est un travail géré. On pourrait même pas dire un travail spécialisé, c'est un travail générique. Il consiste au fond à marcher, hein, à marcher et à savoir piquer des éléments dans. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça que je peux répondre à votre question.
Ouais, donc l'avantage d'arriver sur un territoire déshérité, c'est que d'abord, vous avez de la main-d'œuvre qui cherche du travail, que vous allez pouvoir d'ailleurs renouveler assez facilement, puisque de toute façon, comme il n'y a pas d'autre choix, c'est très facile d'avoir de nouveaux travailleurs. Et puis par ailleurs, effectivement, on vous propose des conditions d'installation particulières. Donna Kesselman, peut-être un mot sur ce point, avant d'évoquer justement la grève qui touche aussi ces sites-là, et peut-être regarder ce que les syndicats peuvent pour justement faire face, résister à ces transformations du travail. Donna Kesselman.
Cela dit, effectivement, il y a un côté incompréhensible. Quand on regarde aux États-Unis, justement, l'installation à New York, il y a cette concurrence nationale pour recevoir le nouveau entrepôt d'Amazon. Ça arrive à New York, mais le coût justement des autorités publiques de subventions pour accueillir l'usine est bien plus cher de ce que c'était le coût pour soutenir les problèmes sociaux. Mais là, parce qu'il y a une région conscient, la population s'est élevée contre l'arrivée du nouvel acteur, mais effectivement, c'est insoluble comme situation. Donc, apparemment, effectivement, il commence à avoir des réactions. En juillet dernier, il y a eu quand même une grève le jour des promotions. Hein, il y avait une grève aux États-Unis, en Allemagne, en France, un peu moins en France, mais quand même des milliers en Allemagne, où les travailleurs ont dit, étant donné les conditions de travail forcenées pour le jour des promotions, ils ont fait grève, ce qui était vraiment quelque chose de difficile, mais d'important. Il y a aussi des grèves en Espagne aussi. Donc on voit quand même qu'il y a une recomposition dans des conditions difficiles des modes de réaction classique et qui reçoit l'adhésion de la population, justement.
Mais avec quelle efficacité? Parce que vous avez raison. Par exemple, là, en ce moment, en Allemagne, chez Amazon, il y a des grèves. On est à l'approche de Noël, en plus ça tombe bien, donc ça permet de mettre un petit peu la pression sur la direction. On demande des bonus, on demande un certain nombre de réajustements dans les conditions de travail, et on fait grève chez Amazon en Allemagne. Est-ce qu'on a la moindre chance d'obtenir quelque chose? Alors, c'est soutenu par un syndicat qui s'appelle Verdi, qui est un très gros syndicat, qui est extrêmement puissant en Allemagne. Est-ce qu'ils peuvent espérer obtenir gain de cause?
C'est toute la question. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on pensait que c'était pas possible chez Walmart aux États-Unis d'avoir quoi que ce soit, mais le mouvement pour les 15 dollars de l'heure a fini par faire basculer une entreprise comme Walmart. Effectivement, c'est difficile. Les temps sont difficiles, les travailleurs sont défensifs, mais effectivement, c'est effectivement la possibilité qui s'ouvre.
Patrick Saint-Golani, si on regarde les choses de façon générale, parce que ça fait des années qu'on dit qu'en réalité, dans ce type d'entreprise, on parlait d'Amazon en particulier, il n'est pas possible de défendre ses conditions de travail. Dès que vous levez le petit doigt, vous êtes immédiatement catégorisé et on va tout faire pour se séparer de vous très rapidement. Donc en réalité, c'est impossible de défendre ses conditions de travail. Est-ce que ça a un peu changé? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dialogue social, un début de dialogue social dans ce genre d'entreprise ou toujours pas? Est-ce qu'on peut mesurer l'évolution des choses?
Je n'ai pas particulièrement le sentiment qu'il y ait un dialogue social. Je sais que, par exemple, aux États-Unis, il y a eu aussi des grèves notamment autour de la question du respect, finalement, des exigences communautaires. Par exemple, des moments de prière. En l'occurrence, c'était des travailleurs immigrés et des femmes immigrées. Amazon a négocié, effectivement, ces moments communautaires, mais il n'a pas voulu les reconnaître comme un mouvement social, mais comme un mouvement culturel, justement, hein, communautaire, culturel, et pas comme un mouvement social. Donc, il y a vraiment... effectivement, je pense que cette entreprise a certaines réticences à l'égard du social. Mais je voudrais aussi répondre par rapport à ce qu'a été mon thème de départ, c'est la question du consommateur, puisque, effectivement, par rapport à ce que disait Donna Kesselman, finalement... Il y a une tradition nord-américaine qui est tout à fait fondamentale et qui a été utilisée à plusieurs reprises concernant d'ailleurs les logiques d'externalisation, c'est la question du boycott. Je veux dire, si le consommateur comprend que le Black Friday est quelque chose qui est vraiment un mécanisme harassant et également qui mobilise, parce qu'il faut pas oublier que il y a pas seulement que les travailleurs d'Amazon qui sont en jeu, c'est aussi tous les intérimaires qu'ils embauchent à ce moment-là. Si on mesure finalement une certaine relation, on le mesure, consumériste des choses,
il y a peut-être pas le début d'une réaction, d'une mobilisation citoyenne sur ce sujet.
Il faut peut-être que justement les syndicats devraient un peu lancer.
Donna Kesselman, ce serait ça le rôle des syndicats? Aider à conscientiser précisément le citoyen de sorte à ce qu'il change ses usages et qu'il boycotte justement des entreprises comme celle-ci?
Traditionnellement, le boycott, c'est l'arme le plus faible du mouvement ouvrier historiquement, parce que justement, c'est une arme individualisant qui met le consommateur devant sa propre conscience au moment de l'achat. Donc, ce n'est pas une arme collective, justement. Et donc, il y a eu très peu de boycotts qui ont fonctionné aux États-Unis. Ça a fonctionné avec César Chavez et autour des laitues pendant les grandes années de la construction du syndicalisme agricole, mais ça a très peu fonctionné. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un boycott informel, ce boycott de beaucoup de gens bien pensants, mais ça n'a pas empêché à ce que l'entreprise devienne la première entreprise cotée en bourse. Et pour ces raisons, justement, ce qu'a expliqué Patrick à l'époque, justement, il n'y a pas de petites économies. C'est quand même impressionnant à quel point ils sont minables, ils utilisent ce travail, le harcèlement psychologique pour faire pression, etc. L'évasion fiscale, on en parlera, justement, donc tous ces éléments qui se combinent pour créer qui refusent de faire le moindre geste social et faire partie d'un collectif de régulation. Et je pense qu'il faudrait revenir sur ces tentatives de créer des nouvelles formes de régulation, de non-régulation, de déréglementation, parce que les entreprises sont des lobbies très très puissants pour contourner la réglementation de l'État.
Patrick Saint-Gaudens.
Oui, non, juste un point sur la question du boycott. Lorsque, par exemple, Gap a fait travailler des enfants, enfin, lorsqu'on a découvert qu'il y avait dans les ateliers de sous-traités par Gap du travail d'enfants, etc., il y a eu quand même des effets de ce boycott sur l'entreprise, sur son image, etc. Il faut dire que, bon, effectivement, à travers Gap, il y a un enjeu d'image qui était très fort. Peut-être l'est-il moins fort pour Amazon, mais je pense que aujourd'hui, l'enjeu de l'image, pour autant que c'est justement un enjeu très spéculatif des entreprises et des marques aujourd'hui, est un enjeu fondamental, et la relation au boycott est peut-être à réviser de ce point de vue.
Mmh. C'est qu'on aimerait bien. Il y a eu un grand mouvement après Rana Plaza, cette usine qui a brûlé. Il y avait des chartes internationales où les entreprises sont engagées à veiller sur les conditions de travail. Le problème, c'est les moyens d'application. On aimerait bien, tout le monde aimerait bien, c'est très important et il faut le faire. Mais c'est difficile, y compris de les faire respecter la loi à l'intérieur des pays où il y a une réglementation qui reste forte, et dans ces pays-là, c'est quand même difficile.
Encore un tout dernier mot.
Oui, juste un point. En tout cas, en France, il y a une loi sur la vigilance des entreprises, hein, qui vient d'être instituée, et qui a un effet aussi sociopolitique important. C'est-à-dire que les entreprises qui sous-traitent ou qui externalisent, donc, sont responsables des conditions de travail des sous-traitants.
Et ça, c'est pour toutes les entreprises. Oui. Alors, à partir d'un certain nombre de salariés, je ne sais plus combien, mais en tout cas, pour toutes les entreprises. On va revenir sur le cœur de notre sujet, qui est les géants du numérique, les GAFA. Alors, c'est pas un GAFA, mais c'est un géant du numérique. On va parler d'Uber. Parce que, justement, la question de la régulation, de la réglementation, elle a été très forte autour de cet acteur-là.
Ils vous disent que vous êtes votre propre patron, ce qui est absolument faux, puisque pour gagner le minimum vital, vous devez conduire entre 12 heures et 13 heures par jour.
Nous sommes leurs partenaires. Nous leur permettons de fonctionner. S'ils ne nous respectent pas, qui va garantir qu'ils respecteront leurs investisseurs ?
Voilà, donc des chauffeurs Uber qui, le 8 mai dernier, appelaient à manifester contre leurs conditions de travail. On entendait notamment un chauffeur new-yorkais. Il se trouve que Donna Kesselman, il y a encore quelques jours, Uber faisait l'actualité du côté de Londres. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais l'autorité des transports londonienne a annoncé qu'elle refusait de renouveler la licence d'Uber dans la capitale britannique, considérant que l'entreprise ne rassemblait pas les conditions permettant de garantir la sécurité de ses passagers, notamment parce que les chauffeurs peuvent très bien transporter des gens sans même avoir d'assurance, sans même avoir de permis de conduire. Donc on a retiré l'autorisation. Alors il se trouve que l'entreprise californienne a fait appel, mais quand même, est-ce que ça, c'est pas le signe que, ça y est, on a pris conscience du côté des responsables politiques que il faut en finir avec ce flou et qu'il faut réglementer, il faut réguler. Il y a plein d'initiatives en la matière, on va y revenir, mais est-ce que cette chose-là n'est pas justement le signe que c'est fini le moment où justement il n'y avait plus de règles ? C'est terminé, ça ?
En fait, oui et non. C'est-à-dire que les objets de régulation que suscite cette nouvelle forme de travail qui est justement non définie, comme je dis tout à l'heure, qui est pour le moment le chauffeur Uber, sont différentes selon le pays et plus ou moins appliquées. Vous avez des extrêmes. Déjà à Londres, le gouvernement britannique a déréglementé le secteur en 2015 pour permettre justement les VTC de pouvoir circuler partout dans le pays alors que les taxis sont réglementés au niveau municipal. C'est le même organisme public à Londres qui a combattu la régulation des chauffeurs d'Uber qui, sur la question de la sécurité très précisément, réagit. La question de la sécurité, c'est vrai, dans certains pays, ça pose des problèmes. Dans d'autres pays, par exemple, comme au Québec, il n'y a aucune résistance. Il y a maintenant une loi qui crée un secteur unique entre taxi et VTC, donc qui élimine complètement tous les contrôles sur les taxis. Si vous permettez, je vais faire une petite publicité. Parce que en janvier, va sortir un numéro de la chronique internationale de l'IRES, Institut de Recherche Économique et Sociale, qui étudie justement la régulation du Uber dans 7 pays et dans l'Union Européenne et qui traite de toutes ces questions-là. Et
c'est une publicité qui est autorisée sur Radio France.
Merci, j'ai demandé l'autorisation pendant le break. Et justement, qui étudie précisément cette question. Il y a des pays comme l'Italie qui interdit Uber. Il y a des pays comme l'Allemagne qui assimile Uber carrément, quasiment aux VTC qui sont quasiment assimilés aux taxis, mais il y a d'autres pays, y compris un pays intéressant, comme la Suède. La Suède, alors que c'est un pays très réglementé, soi-disant, sur d'autres questions, qui a accueilli et qui a adapté sa réglementation pour permettre les VTC. Donc vous savez, c'est très très varié.
Hein. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire un point un peu sur le cas de la France? Parce qu'il se trouve qu'on a, on vient d'adopter une loi récemment qui est censée justement un peu, la loi d'orientation des mobilités, sur les mobilités, pardon, qui avait entre autres pour objectif de sortir de cette fameuse zone grise du droit où les travailleurs indépendants collaboraient avec ces plateformes numériques. C'est un texte qui a été adopté il y a même pas un mois, c'était en novembre dernier. Qu'est-ce qu'il change très concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Ce qui change, c'est que pour sortir de la zone grise, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne fait que développer la zone grise.
Pourquoi?
C'est-à-dire qu'il développe la notion de responsabilité sociale des entreprises qui était introduite dans la loi de travail de 2017, la responsabilité sociale des entreprises de transport, et qui, cette loi, la LOM, après y compris avoir été refusée par le Conseil constitutionnel, introduit la notion de charte. C'est que des chartes qui peuvent être adoptées par les entreprises VTC pour surveiller les conditions de travail et éventuellement pour établir un prix de base, pour permettre aux chauffeurs de refuser des courses. Mais c'est unilatéral, c'est sur la base du volontariat et c'est des contrôles justement qui ne sont pas intégrés dans le droit de travail. Donc c'est quelque chose qui va vers le soft law et le soft law qui est le cadre qui souhaitent les entreprises à Silicon Valley et qui se développe peut-être à l'échelle internationale. Donc c'est contre la régulation, c'est quelque chose qui va à l'encontre d'une nouvelle régulation des secteurs.
Patrick Saint-Golani, finalement on n'a peut-être pas voulu tant que ça, justement, réguler. Il y a d'ailleurs une chose qui est frappante dans ce texte, c'est que on a conservé le principe du statut d'indépendant des travailleurs, qui était quelque chose qui était beaucoup discuté, beaucoup remis en cause. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu sortir de ce principe du statut du travailleur indépendant?
Justement, ça, c'est la grande question. D'abord, il y a une sorte de séduction, enfin, chez certains à l'égard de cette puissance de dérégulation. Au fond, qu'est-ce qui fait que il y a eu une telle visibilité au fond de la question des plateformes au-delà de l'expérience concrète du travailleur à l'intérieur des logiques économiques, etc. Si ce n'est justement son effet en termes de dérégulation en tout. Des droits sociaux, d'un certain nombre d'acquis sociaux, de protection sociale, concernant éventuellement les questions de retraite, etc., évidemment, puisqu'on transforme les gens en indépendants. Donc, il y a tout cet enjeu de ce côté-là. Et également du côté de l'émergence de cette figure extrême qui apparaît extrêmement séduisante à une forme radicale de capitalisme qui est la figure de l'indépendant, enfin du travailleur indépendant qui finalement prendrait en charge son activité et qui paradoxalement, ça c'est un point extrêmement important à l'intérieur de ce capitalisme, qui est en fait quelqu'un qui est propriétaire de ses moyens de production. Hein, le chauffeur d'Uber à sa voiture, voire s'endette pour pouvoir être propriétaire de sa voiture. Donc on est vraiment dans un type de modèle très très spécifique et je crois que justement il y a une sorte de refus d'ouvrir les enjeux du côté de la loi et du côté justement de la requalification. En fait, il y a une sorte de verrouillage dans la loi, concernant les plateformes, du côté du refus de la requalification.
Alors sur la question de la requalification, il s'est passé des choses, notamment du côté des États-Unis, en particulier du côté de la Californie. Je vais vous interroger là-dessus, Donna Kesselman. Mais si on reste un tout petit instant sur la France, il y avait un des points prévus par la fameuse LOM, la loi sur les mobilités, qui vient d'être adoptée, qui concernait le dialogue social dans ces plateformes. Alors, évidemment, c'est tout récent, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'effectivement, on pourrait demain avoir un dialogue social digne de ce nom dans les plateformes? Le texte va le permettre?
Il y a effectivement une possibilité de dialogue social dans une situation où il n'y a pas réellement d'organisation représentative constituée, parce que le dialogue social se fait à partir d'un rapport de force. Alors déjà, tous les problèmes d'organisation des indépendants en général, de ces questions de chauffeurs en particulier, c'est la question de l'atomisation, il y a question de l'idéologie, effectivement, l'idéologie de l'entrepreneuriat de ces chauffeurs. Le fait qu'il y a une segmentation importante entre les chauffeurs à plein temps et ceux qui sont effectivement la vraie économie de partage qui font ça à temps partiel, donc c'est vraiment une atomisation difficile. Il y a certaines associations qui ont adhéré à des organisations syndicales, mais c'est pas vraiment un secteur tout à fait constitué. Et encore une fois, il y a un problème sectoriel. Et ça, c'est très important pour comprendre. Il n'y a pas réellement de secteur de VTC intermédié par les plateformes. Donc, il n'y a pas réellement d'ancrage sectoriel de cette entreprise. L'entreprise elle-même est officiellement définie par l'Union européenne, la décision de la Cour de justice européenne, comme une entreprise de transport. Mais il n'y a pas réellement de secteur d'ancrage, ni de point de vue entreprise. N'oublie pas, c'est les entreprises qui ne sont pas, pour le moment, sanctionnées par le marché, parce qu'ils travaillent à base de capital risque. Donc, il n'y a pas de règles, y compris pour une vraie négociation.
Alors là où paradoxalement il commence à y avoir des règles de plus en plus fortes, c'est précisément du côté des États-Unis, du côté de la Californie, du côté de la Silicon Valley où finalement tout est parti. Septembre dernier, vous êtes une spécialiste d'Anna Kesselman des droits sociaux aux États-Unis. Septembre dernier, la Californie a ratifié une loi qui vise à requalifier précisément les chauffeurs VTC en employés alors qu'ils étaient considérés jusqu'ici comme des travailleurs indépendants. Là, les conséquences sont importantes. C'est une vraie avancée, ça.
C'est étonnant, comme quoi c'est un pays étonnant. Et effectivement, il y a cette loi qui introduit la présomption de salariat pour une entreprise, voulant dire que si une entreprise veut que leurs travailleurs soient indépendants, il faut qu'ils prouvent premièrement qu'ils apportent un secteur d'activité qui n'est pas le cœur de l'activité de l'entreprise, notamment, ça c'est le critère aux États-Unis. Et ce qui voudrait dire, soi-disant, le 1er janvier, que les entreprises VTC devraient faire des salariés de leurs chauffeurs. Ce qu'ils ne feront pas, ils vont attaquer en justice. Mais en même temps, et c'est ça qui est étonnant, aussi inédit dans ce pays et étonnant, les entreprises disent que pour eux, ils veulent leurs salariés, leurs chauffeurs sont une nouvelle forme de travailleurs qu'ils appellent des travailleurs de réseau, des livreurs de réseau, à la fois des VTC chauffeurs et aussi des livreurs d'alimentation, et qui proposent un nouveau projet avec des règles, avec soi-disant des droits, avec la possibilité de négocier, et qui vont l'apporter auprès du public lors d'un référendum l'année prochaine dans l'État de la Californie pour avoir une nouvelle loi sur ce nouvel figure de travail qui serait les livreurs et chauffeurs en réseau. Donc vous avez une situation absolument étonnante où les entreprises veulent faire partie des régulateurs pour constituer une nouvelle figure de travail qui serait autre que les deux figures classiques, canoniques, qui sont le salariat et les travailleurs indépendants.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Singolani? Dans ce territoire où on a inventé justement ce nouveau travailleur, c'est là aussi où aujourd'hui on essaye de réguler toutes ces dégradations que ça a engendré.
Oui, alors moi, ça me ramène à la question de la subordination et notamment à cette puissance de dénégation de la subordination qu'ont développé ces plateformes. C'est-à-dire que, il est clair que on donne des consignes, des injonctions, par exemple, aux cyclistes, aux livreurs sur son vélo, que l'algorithme suscite plutôt qu'il suggère. Aux chauffeurs de travailler à tel ou tel moment lorsque c'est une heure de pointe, etc. Donc on voit que un certain nombre de mécanismes sont de fait et des mécanismes de subordination. Et d'ailleurs les juristes assez récemment ont quand même réussi à montrer très facilement que il y avait là quelque chose qui était de l'ordre de la subordination. Et en même temps ce type de modèle socio-économique est constamment dans la dénégation, y compris d'ailleurs, c'est un point. Bon, peut-être que qui est un peu annexe, mais y compris du côté de la ludification des choses, c'est-à-dire que il y a constamment l'idée de transformer le. Alors, c'est pas seulement l'emploi qui est miné au fond, puisque c'est quand même ça qui la chose la plus évidente, c'est que les plateformes minent l'emploi. Mais c'est pas seulement l'emploi qui est miné. C'est quelque chose aussi du rapport ce que c'est que pas seulement donc la subordination non plus. C'est le caractère au fond hétérogène hétéronome du travail qui est dénié, au sens où on présente le travail, viens chez Uber, emmener tes potes en voiture. C'est pas ça la réalité et l'expérience concrète. Mais il y a constamment la construction d'un imaginaire qui est un imaginaire de la dénégation, au fond, de l'hétérogénéité du travail. Un point important, c'est le cas aussi pour les cyclistes, hein, parce que, enfin, les bikers et les livreurs à vélo, on joue sur le sport, sur le côté ludique.
C'est bon pour
du
la
sport.
Santé, après c'est bon tout, d'aller livrer les colis de Nana Kesselman. Et puis, on va retrouver dans un instant Michel Savy pour parler justement de ces fameuses livraisons qui aujourd'hui sont si fréquentes dans nos villes. Nana Kesselman.
J'ai présenté effectivement la dimension de disruption de l'entreprise Uber qui souhaite remettre en cause le cadre canonique du travail. Et même la loi, qui est positive et intéressante, on est dans un pays qui n'arrive pas à appliquer même le minimum du droit de travail, quel qu'il soit. Donc est-ce qu'il va pouvoir appliquer cette nouvelle loi? Mais il y a un dernier point qui me semble important et essentiel à évoquer, c'est par rapport à la nature du cyberespace et du travail par plateforme, c'est la remise en cause de la notion même du travail. Et ça, c'est le travail de Marianne Dujardin qui pose la question. Si on dit par exemple que le chauffeur Uber fait un travail, est-ce que le chauffeur Blablacar fait un travail? Est-ce que la contribution, l'entrée à Wikipédia, est-ce que c'est un travail? Est-ce que la création sur YouTube, est-ce que c'est un travail? Donc y compris une disruption sur la notion même du travail qu'il faudrait explorer.
On est avec vous, Dona Kesselman, et vous, Patrick Saint-Golani. Comment les GAFA ont bouleversé le travail dans cette journée spéciale sur France Culture en raison d'un appel à la grève? C'est le titre de cette journée spéciale sur France Culture. 11h40, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et si l'essor du e-commerce en général et d'Amazon en particulier a bouleversé l'organisation du travail, on en parlait, il a également eu un impact non négligeable sur la logistique urbaine, autrement dit sur le transport de marchandises en ville, alors que cette activité n'a longtemps concerné que l'approvisionnement des stocks de magasins et de restaurants par leurs fournisseurs. Elle concerne désormais les particuliers qui se font quotidiennement livrer leurs achats. Une évolution qui pèse beaucoup sur la fluidité du trafic, mais aussi sur l'environnement en ville, au point que la mairie de Paris a lancé fin novembre l'idée de taxer les livraisons d'Amazon dans la capitale. Bonjour Michel Savy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, un spécialiste des transports, professeur émérite à l'Université Paris-Est. Quelques semaines, je disais, cette mairie de Paris qui dit qu'il faut taxer les livraisons du leader mondial du e-commerce pour réguler une activité jugée, je cite, « facteur de précarisation, source de congestion et de pollution ». C'est une bonne idée, Michel Savy, il faut y aller et vite.
Oui, je pense que la question de la précarisation, c'est une question sociale importante, mais qui ne s'applique pas de la même manière quand on parle des livreurs à vélo, de repas ou de choses comme ça avec ce prétendu statut d'auto-entrepreneur qui a été évoqué précédemment, et les gens qui travaillent dans les services de messagerie, de livraison de colis, le leader étant la Poste, hein, ou sa filiale Géoposte et Chronoposte. Ce sont des vrais salariés dans la grande majorité. Donc la question de la précarité n'est pas exactement de la même nature. Toutefois, effectivement, la question de la congestion, de la pollution, de l'émission de gaz à effet de serre est une question qui est ressentie justement de façon beaucoup plus vive en milieu urbain qu'en race campagne, à l'évidence. Et donc les villes s'en soucient. Et dans ce contexte, effectivement, la ville de Paris apparaît un peu comme un précurseur par rapport à d'autres villes françaises qui, elles aussi, progressivement développent une politique de logistique urbaine.
Michel Savy, vous pouvez nous aider à faire un point peut-être sur précisément les personnes, les travailleurs qui livrent ces colis en ville, parce que il y a évidemment la Poste. On sait que par exemple Amazon sous-traite beaucoup à la Poste, mais on sait aussi qu'elle commence à internaliser de plus en plus la chose et devient donc de fait un concurrent de la Poste. Où est-ce qu'on en est là?
Absolument. Non, alors on n'en est pas encore au stade où Amazon, qui n'est pas le seul e-commerçant d'ailleurs, mais enfin c'est le plus connu et le plus gros, y compris à l'échelle mondiale. On n'en est pas encore au moment où Amazon pourrait avoir son propre réseau et se désengager complètement de la Poste. C'est le plus gros client de la Poste, et la Poste reste de loin la première entreprise de traitement de colis en France.
Et est-ce que la Poste doit craindre, il y a une menace, la menace Amazon pour la Poste, c'est quoi?
Bah, la menace Amazon pour la Poste, c'est de perdre une partie de sa clientèle, alors que la Poste est face à une reconversion très difficile, avec l'Internet, le courrier papier traditionnel ne cesse de décliner, nous n'écrivons plus de lettres, ni de lettres d'amour, ni de factures, ni de... La correspondance privée n'est plus qu'une toute petite partie du trafic. La plupart des lettres que nous recevons sont émises par des administrations ou des entreprises, et une grande partie de ce trafic, et on nous propose constamment de le transférer sur des liaisons électroniques et de pas gaspiller du papier. Donc la Poste, qui a quand même, je ne sais plus combien, 150 000 salariés, doit trouver une reconversion à ses salariés, et c'est la croissance de la messagerie du colis qui est une de ses voies de croissance. Elle est leader sur le marché, elle a des atouts très importants pour ça, notamment son patrimoine immobilier, parce que pour faire des livraisons en ville, si on a des lieux de stockage et d'éclatement des marchandises pas trop loin de la ville et même en son cœur, c'est un avantage très important, mais il y a là une menace qui doit sans doute inquiéter la Poste, mais enfin la Poste a encore de très gros atouts hein, quand même.
Par ailleurs, elle n'est pas seule à s'inquiéter. Si on regarde par exemple du côté des États-Unis, l'US Postal Service s'inquiète aussi beaucoup de le fait d'internaliser le service de livraison du côté d'Amazon. Il y a un nouveau service qui s'appelle Amazon Flex qui s'est beaucoup développé avec des petits entrepôts qui sont chargés de répartir des colis sur les derniers kilomètres. Et d'ailleurs, c'est le consommateur lui-même hein, qui s'en charge. On utilise le consommateur qui devient livreur, et c'est une bataille du transport de colis qui fait rage du côté des États-Unis aussi. Michel
Sabine. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire que l'US Post Office est une immense entreprise, mais qui n'était pas d'une efficacité remarquable. Et elle avait déjà, depuis un siècle, la concurrence de UPS, par exemple, qui est une entreprise qui n'est pas une entreprise d'express au départ, mais c'était l'entreprise de la vente par correspondance pour les fermiers américains qui achetaient des outils, des vêtements de travail, etc. Un peu comme Manu France, il y a 50 ans en France. Et donc, US Post Office, elle avait déjà la vente par correspondance et de très puissantes entreprises de transport de colis face à elle. Et effectivement, on dit que le e-commerce aux États-Unis se développe encore beaucoup plus vite qu'en Europe, et c'est même le commerce traditionnel, y compris les grands magasins du centre de New York et les adresses les plus prestigieuses, qui sont menacés. Donc il n'y a pas un effet seulement sur le transport, sur la poste, il y a un effet sur le commerce traditionnel brick and mortar, comme on dit, c'est-à-dire qui s'appuie sur des entrepôts, sur des magasins solides, matériels, physiques, dans lesquels les clients se rendent pour faire leurs achats.
Michel Savy, il y aurait quand même une solution qui permettrait de faire diminuer considérablement le nombre de livraisons dans nos villes, c'est tout simplement de s'appuyer un petit peu plus sur les points relais, c'est-à-dire ces endroits où le client peut aller pour récupérer sa livraison, même 24 heures sur 24. Ça permet évidemment de regrouper les livraisons. C'est une solution qui est assez peu développée aujourd'hui encore. Alors, j'ai regardé par pure curiosité pour ce qui est d'Amazon. Une fois encore, comme c'est le leader, c'est toujours intéressant d'avoir une idée. Il y en a seulement une quinzaine dans la capitale. C'est pas énorme.
Oui, mais vous avez raison. Mais je pense qu'on est au tout début d'une tendance qui, effectivement, est déjà beaucoup plus avancée au Japon, où le leader du transport de ce genre, Yamato, a 160 000 points relais sur le territoire, ou même en Allemagne, nos voisins, où DHL a plus d'un millier de pack station, comme ils appellent ça, qui sont sur les trottoirs.
Alors pourquoi on en a si peu, nous ?
Alors parce que ça commence, parce que ça a été expérimenté ailleurs et que ça ne s'est pas diffusé chez nous. Par exemple, la ville de Paris estime que les mettre sur les trottoirs parisiens, c'est pas une bonne idée, parce que le trottoir parisien est déjà très encombré d'un mobilier urbain abondant, et donc préférerait des localisations dans d'autres endroits, dans les postes, y compris d'ailleurs, ou dans des stations de métro ou ailleurs. Mais je pense que le développement de ces consignes électroniques va se produire en France maintenant. Quant au point relais, il y en a déjà beaucoup, beaucoup.
Pour une ville comme Paris, qui n'est pas une petite ville, non, 15 pour Amazon, c'est pas beaucoup. Michel Savy.
Non, je parle pas de ça. Je parle d'une chose beaucoup plus simple. Ouais. C'est le marchand de fleurs ou la blanchisserie ou un bureau de tabac
D'accord.
qui reçoit les colis pour vous et vous passez, et d'ailleurs, et à cette occasion, le marchand de fleurs, il espère que vous prendrez votre colis et que vous achèterez quelques fleurs pour votre fiancé.
Et ça sera une très bonne idée d'ailleurs, acheter des fleurs. Et Michel Savy, encore un petit mot. Parce que il faut regarder du côté des usages et des consommateurs. Il y a quelque chose qui est un peu étrange quand on commande sur Amazon par exemple, c'est qu'on vous explique, on vous fait croire que la livraison est gratuite.
Oui.
Qu'elle coûte zéro. Alors que évidemment qu'elle n'est pas gratuite, cette livraison. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas forcer ces acteurs, précisément, à afficher le coût réel d'une livraison, qui est bel et bien là? On vous dit c'est zéro, mais ce n'est pas zéro, Michel Savy.
Je suis parfaitement de votre avis. Ça n'est pas gratuit. C'est facturé un centime. Amazon tourne la loi en le facturant un centime. C'est évidemment pas le coût réel. Donc, il y a une sorte de vente à perte. Mais dit-on, je ne suis pas juriste, pour l'instant, on n'a pas trouvé les moyens juridiques d'obliger les e-commerçants à distinguer dans leurs factures la valeur de l'objet comme tel, si j'ose dire, et la valeur de sa livraison. Mmh. Et ça permettrait effectivement aux consommateurs d'arbitrer et d'avoir un comportement plus vertueux. Je le veux dans une heure, je paye 5 euros. Je le veux demain, je paye 3 euros. Je le veux à un rythme raisonnable dans les 2-3 jours qui permet de rationaliser et d'avoir un transport moins plus efficace et moins polluant. Et je paye seulement 1 euro.
Ouais.
Et effectivement, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. La ville de Paris le souhaite, mais elle va peut-être plutôt essayer de faire du côté de une tarification d'usage de l'espace public. Dès lors que cette obligation de facturation, je crois que le Sénat s'y est employé et n'y est pas arrivé. Cela étant, bon, les villes, et la ville de Paris comme un exemple, mais elle n'est pas la seule, ont d'autres moyens d'agir. Par exemple, d'ores et déjà, Chronopost s'enorgueillit d'être en avance sur la charte qu'ils ont signé avec la ville et livré en ville avec des véhicules en 100% électriques.
Patrick Saint-Golani, réaction, toute dernière réaction, peut-être on arrive au terme de cette émission, et Donna Kesselman,
oui, pour
plus de transparence sur le coût de la livraison.
Oui, je pensais à la question de la livraison. En fait, on parle beaucoup d'Amazon, mais le livre, je vous renvoie plutôt au film de Ken Loach, Sorry We Miss You, qui porte précisément sur la condition de ces livreurs et notamment manifestement, il s'est appuyé sur une autre expérience, à savoir une entreprise qui s'appelait Hermès, ou qui s'appelle peut-être encore Hermès, qui était une entreprise de livraison. Et on voit les conditions des travailleurs qui sont aussi celles qu'évoque d'ailleurs Alex Rosenblatt concernant les chauffeurs d'Uber.
C'est toujours une leçon de voir un Ken Loach.
Voilà.
Donna Kesselman.
Oui, mais ça aussi, c'est l'expression de cette immédiateté qui est introduit par les plateformes. Il faut livrer de plus en plus vite, du jour au lendemain, le soir, 24 heures sur 24, et qui envahit justement à l'intérêt des entreprises. On n'a pas eu le temps de parler justement comment le cyberespace envahit les relations de travail et éternellement de disruption à l'intérieur de l'entreprise, mais ça sera peut-être pour une autre émission.
Rassurez-vous, Donna Kesselman, on aura l'occasion d'en reparler, et je sais pas pourquoi, mais que le sujet va rester un peu dans l'actualité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il semble que c'est un petit peu ce qu'on voit là aujourd'hui.
C'est maman qui t'écrit, c'est Noël. Qui t'adore autant qu'elle, je t'envoie ce petit cadeau de Noël, un petit colis ami.
Ah, c'est difficile de faire plus approprié, hein, le petit colis. C'est évidemment un sujet dont on a beaucoup parlé cette dernière heure. Et c'est Anna Karina, bien sûr, qui nous a quittés très récemment. Un grand merci à Donna Kesselman et Patrick Saint-Golani d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé comment les GAFA ont bouleversé le travail dans cette journée spéciale consacrée au mouvement social que traverse notre pays. Il est 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Et Brice, qu'on retrouve par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Une vaste enquête sur la polarisation politique des démocraties vient de paraître en anglais. Il semble que le phénomène n'épargne pas grand monde, Brice.
Et oui, durant des décennies, les démocraties ont offert le modèle d'une vie politique apaisée. C'est dans les dictatures qu'à l'abri des murs épais de leurs palais, les dirigeants se livraient à de sanglantes purges que s'y déroulaient des révolutions de palais. Des causes réelles de ces affrontements politiques, le public ignorait tout. Dans les démocraties, des partis modérés de centre-droit alternaient au pouvoir avec ceux du centre-gauche et chacun veillait à ne pas trop étendre son propre pouvoir afin de ne pas en faire cadeau à ses successeurs. Mais tout a beaucoup changé au cours des récentes années. Une nouvelle catégorie de dirigeants politiques, des hommes forts, aux verbes enfiévrés tels que ceux qu'on a vus autrefois installer des régimes autoritaires, ont récemment emporté le pouvoir à l'issue d'élections démocratiques. Ils se nomment, vous le savez bien, Recep Erdogan, Narendra Modi, Viktor Orban, Donald Trump, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro. Aux yeux de deux politologues qui travaillent pour le think tank américain Carnegie Endowment, la vraie cause de ce phénomène intrigant est à chercher du côté de la polarisation des sociétés. Thomas Carothers et Andrew O'Donoghue viennent d'éditer un ouvrage qui s'intitule « Democracies Divided ». Il recense des cas de polarisation dans le monde entier. Et si chacun a des causes spécifiques, eh bien on observe pas mal de similarités. Le premier facteur déterminant de cette polarisation, c'est précisément l'apparition de ces personnages politiques d'un type nouveau. Les leaders populistes, comme on les appelle, divisent consciemment la société, d'abord parce que leur propre vision du monde est manichéenne. La politique, pour eux, n'est pas l'art de la gestion prudente et dépolitisée, mais celui de définir qui sont les ennemis et de les combattre. Spontanément, ils sont du côté de Carl Schmitt et pas d'Emmanuel Kant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils diabolisent leurs opposants et leur prêtent les plus noirs desseins, conformément à leur propre vision complotiste du monde. Ils enflamment et exacerbent les divisions préexistantes au sein des sociétés parce que c'est le meilleur moyen pour des gens incompétents de se hisser au pouvoir. La deuxième source commune où s'abreuve l'hystérisation du débat public, les médias, et en particulier les nouveaux médias numériques. Dans le contexte d'extrême concurrence que connaît dorénavant ce secteur des médias, jeter de l'huile sur le feu apparaît comme un moyen de tenir un public en haleine. La mise en scène des discours de haine, le spectacle des violences de rue sont hélas plus payants que les analyses objectives ou le sobre déroulé des faits.
On pourrait imaginer, Brice, qu'une économie dynamique tente à apaiser les tensions sociales et partant l'intensité de la mêlée politique.
Eh oui, mais justement ce n'est pas le cas. Ainsi, prenez l'Inde. En Inde, la nouvelle classe moyenne, récemment enrichie, a adopté le nationalisme hindou de Modi. Et c'est une erreur de croire que le populisme est limité aux classes populaires ou aux laissés pour compte. La corruption, qui dans un premier temps est censée apaiser les tensions, tend à la fournir à la longue des motifs de détérioration du climat politique. Elle sert en effet à propulser des politiciens qui promettent de donner un coup de balai ou d'assécher le marigot, or ce sont rarement les plus modérés. La polarisation excessive du climat politique entraîne des conséquences fâcheuses. Elle gangrène la société, elle la fracture, elle affaiblit les nations en les privant de cohérence interne. Ainsi en Turquie, 80% des sondés déclarent qu'ils ne voudraient pas que leur fille épouse un homme appartenant au parti d'en face. Et 3/4 d'entre eux préférerait ne pas faire d'affaires avec un adversaire politique. La polarisation cause des dommages à l'indépendance de la justice, car les politiciens exaltés tentent d'intimider leurs adversaires en les traînant devant les tribunaux. En instrumentalisant les juges, ils finissent par politiser la justice, qui perd ainsi sa réputation d'indépendance, ce qui contribue à exaspérer la société et donc à aggraver la polarisation. Alors vous me direz, comment retrouver le cours normal des choses? Les auteurs du livre remarquent que la décentralisation, telle qu'elle a été notamment pratiquée au Kenya suite à la réforme constitutionnelle de 2010, a permis de ramener un certain calme. Parfois aussi, l'élection d'un nouveau leader peut ramener la concorde civile. Ainsi, en Équateur, Lénine Moreno est parvenu à faire retomber la tension créée par son prédécesseur Rafael Correa, alors qu'ils étaient membres du même parti. Mais le plus frappant dans cette enquête mondiale, c'est de découvrir que ces polarisations reposent généralement sur des différences idéologiques superficielles entre les camps en présence. Mais bien sûr, les leaders en quête du pouvoir tendent à les exagérer afin, bien entendu, de rameuter des partisans.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.